Maintenant, chers frères et sœurs, à ouvrir votre Bible, parce que nous sommes là pour cela aussi, ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Philippiens. L'épître de Paul aux Philippiens. Vous trouvez Philippiens chapitre 1. Nous lisons dans la Bible, pas dans ce passage, mais un verset de la Bible en Romains, chapitre 8, 32, qui dit que lui qui n'a pas épargné, en parlant de Dieu, n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc l'apôtre Paul dit que le fait que Dieu n'a pas épargné son fils, son propre fils, mais qu'il l'a vraiment livré pour nous, eh bien, garantit qu'il nous donnera, qu'il donnera à ses enfants toutes choses avec lui. Alors, essayez de penser dans votre esprit aux bénédictions, aux grâces, aux dons que Dieu accorde à ses enfants en Christ. Essayez de les écrire sur les pages de votre esprit. Il y a ça, 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 ça. Tout cela, toutes ces choses sont des dons que Dieu accorde, des faveurs, des privilèges qu'il accorde à ses enfants. Et maintenant que vous l'avez fait, je vous pose une autre question. Est-ce que sur votre liste, il y a les souffrances pour Christ? Alors vous avez peut-être pensé à beaucoup de choses, mais est-ce que vous avez pensé aux souffrances pour Christ? Peut-être dites-vous, les souffrances, mais Dieu ne donne pas des souffrances. Dieu ne donne que de bonnes choses. Eh bien, aux Philippiens qui sont éprouvés et qui sont apeurés, peut-être par ce qui leur arrive, hein, on a lu dans cette première épître, aux Philippiens, que l'apôtre Paul, celui qui a implanté l'Église, celui qui a été le pionnier, était maintenant à plusieurs kilomètres de là, dans une prison à Rome, et que les chrétiens s'inquiétaient, les chrétiens de Philippe s'inquiétaient pour lui. Eux-mêmes, les chrétiens de Philippe, étaient dans des difficultés aussi. Verset 28 du chapitre 1 nous parle de leurs adversaires. Chapitre 3 nous parle des faux circoncis, des personnes qui leur veulent du tort. Et si vous lisez ce que Paul dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 8, quand il parle des églises de la Macédoine, c'est Thessalonique, Bérée et Philippe, il dit que ce sont des églises qui, au milieu de beaucoup de tribulations et qui sont éprouvées, mais qui ont quand même participé à une collecte. Mais il souligne le fait qu'ils sont dans beaucoup de tribulations et qu'ils sont éprouvés. Et comment l'apôtre Paul va encourager ces églises, cette église de Philippe qui est probablement en proie à des difficultés aussi, à des souffrances à cause de sa foi en Christ? Eh bien, regardez le chapitre 1, donc on reprend Philippiens chapitre 1 et au verset 27, Philippiens 1 verset 27. Philippiens chapitre 1. Et à partir du verset 27, nous lisons la parole de Dieu. Et il dit, je suis dans Éphésiens, c'est pour ça que ça ne marche pas. Philippiens chapitre 1, verset 27, il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, retenez bien ceci, cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Donc voyez, l'encouragement que l'apôtre Paul donne ici aux Philippiens n'est pas patience dans quelques jours ou dans quelques semaines, vos difficultés vont disparaître. Après tout, vous êtes des enfants de Dieu et Dieu n'a que de bonnes choses pour vous. Non, ce qu'il leur dit en substance est ceci, tenez ferme dans l'unité, dans votre combat. Ne vous laissez pas intimider par les adversaires car Dieu vous a fait un double don, une double bénédiction. La foi, c'est ce qu'il dit, et la souffrance. Alors peut-être nous n'avons pas mis la souffrance sur notre liste de bénédictions et de dons qui viennent de Dieu, mais notre texte nous dit ici, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, ici. Alors on pense à la souffrance souvent de manière négative, n'est-ce pas? Et c'est un domaine sur lequel on n'aime pas beaucoup réfléchir. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est très vaste dans la parole de Dieu. Et il faut avouer qu'on est profondément troublé parfois quand des circonstances difficiles nous atteignent. Et on est d'autant plus troublé qu'on n'a pas au préalable réfléchi, médité sur ce que c'est que la souffrance. En elle-même, la souffrance est quelque chose qui fait mal, qui ne procure pas de joie particulière, hein. En tout cas pas de sensation agréable. Et il est difficile de la considérer donc comme un don de Dieu, parce que pour nous, don qui vient de Dieu est forcément quelque chose qui sera agréable. En tout cas, c'est notre perception des choses. Mais ce que Paul dit ici, il dit que la souffrance pour Christ est un don de Dieu. Il le dit d'une manière particulière. Si on lit ce texte dans la version Darby, il dit « Parce qu'à vous, il a été gratuitement donné ». C'est ça le sens. Hein. C'est un don gracieux. C'est une grâce que Dieu fait. C'est une faveur que Dieu fait. Il dit « À vous, Dieu vous a fait la faveur de souffrir pour Christ ». Et il le dit de la manière suivante, il dit, il a été gratuitement donné par rapport à Christ, non seulement de croire en lui. C'est-à-dire, Dieu vous a fait don de la foi, mais aussi, il vous fait le don, en même temps, de la souffrance pour Christ. Donc, il s'agit ici d'un don de la grâce de Dieu. La souffrance est donnée gracieusement, avec amour. C'est comme si Dieu disait, mon enfant, je t'aime et je vais te faire un don. Je t'offre de souffrir pour Christ. Et vous dites, si c'est ça un don, ben, une faveur, c'est pas la peine. Et c'est pourtant ce que le texte nous dit ici. La motivation, on sent que la motivation de Dieu, même dans ce don, est le même que sa motivation quand il donne la foi. Il donne la foi pour que nous puissions croire. La foi, nous dit le texte ici de manière très claire, est un don de Dieu. Il vous a été gratuitement donné de croire en Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes qui, le jour où nous nous levons, nous disons que nous allons croire. Non, Dieu nous donne de croire en lui. Il nous fait don de la foi afin que nous puissions croire en lui. Et de même, il dit, eh bien, Dieu nous fait don aussi de la souffrance. Mais il est important quand même de distinguer ici ce que Paul dit pour ne pas se tromper. Il ne dit pas que souffrir est un don de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Il n'est pas dit que Dieu vous a fait la grâce de souffrir. Il ne dit pas cela. Il prend soin de spécifier à quelle souffrance il pense. Parce que il y a diverses souffrances que nous pouvons connaître. On peut souffrir pour mille et une choses. On peut souffrir à cause de nous-mêmes, parce que nous avons fait de mauvais choix dans notre vie. On peut souffrir à cause des autres, bon, pour une pas, pour une situation particulière. Ici, l'apôtre Paul spécifie, il vous a été fait par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. On pourrait dire, il vous a été fait par rapport à Christ, de souffrir pour Christ. Donc ici, il est en train de parler des souffrances qui sont en étroite intimité avec Christ. Il ne s'agit pas de souffrances en général, mais il s'agit de souffrances subies à cause de l'évangile et à cause de la foi en Christ. Il vient de parler à ses Philippiens de l'adversité qu'ils rencontrent au verset 28. Et donc, ils rencontrent cette adversité à cause de leur foi, ils souffrent à cause de leur foi, et Paul leur dit, mais tenez ferme parce que cette souffrance que vous supportez à cause de votre foi est un don de Dieu. L'emprisonnement de Paul était une souffrance pour Christ. Lui-même, il le dit. Il le dit, c'est pour Christ que je suis dans les chaînes, dans les liens, en verset 12. Il dit, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'était donc une souffrance, il souffrait à cause de Christ. Mais toutes les souffrances que rencontre le chrétien ne sont pas des souffrances pour Christ. On peut souffrir à cause de son obéissance à Christ, c'est une souffrance pour Christ, mais aussi on peut souffrir à cause de sa désobéissance à Christ. Ça n'est pas une souffrance pour Christ, c'est une souffrance à cause de notre désobéissance. Mais quand on souffre en obéissant parce qu'on est un enfant de Dieu, eh bien, on souffre pour Christ. Ainsi, l'apôtre prend soin de bien souligner cela. Et l'apôtre Pierre souligne la même chose quand il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou comme voleur, ou comme malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ce sont des souffrances que le chrétien peut connaître. S'il vole, il sera en prison, il va souffrir, etc., il va perdre son travail. Enfin, il y a plein de conséquences qui vont arriver, et plein de souffrances qui peuvent être liées à nos mauvaises actions. Mais de telles souffrances ne peuvent pas, bien sûr, être qualifiées comme souffrance pour Christ. Je souffre pour Christ parce que bon, j'ai été mis en prison. Mais pourquoi tu es en prison? Parce que j'ai volé. C'est pas une souffrance pour Christ. C'est une souffrance à cause de ton péché ici. Donc, c'est important de considérer ici que la souffrance dont Paul parle ici, la souffrance qui est en relation avec la foi chrétienne, le fait de croire en Christ. Il ne parle pas des châtiments que Dieu donne même. Envoie parfois pour nous faire, comme l'Épître aux Hébreux le dit, participer à sa sainteté. Dieu châtie ses enfants. Il ne parle pas non plus de cela. Il parle de cette souffrance qui vient avec, qui est liée au fait qu'on en croit en Christ. On a placé sa confiance en Christ. Et donc, il dit que cette souffrance-là est un don de Dieu pour le croyant. Et nous voulons voir ici, donc, peu, on croit, est-ce que qu'est-ce que cela implique que cette souffrance, la souffrir pour Christ, est un don de Dieu. Donc j'ai intitulé cette méditation « Le don de la souffrance pour Christ », le don de souffrir pour Christ. Premièrement, on peut voir qu'en tant que don de Dieu, la souffrance pour Christ est indissociable de la foi en Christ. Souffrir pour Christ est indissociable de la foi en Christ. L'apôtre dit, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire, mais de souffrir. On ne peut pas dissocier les deux. Les deux vont ensemble. Quand Dieu donne la foi, il donne aussi la souffrance, il donne aussi de souffrir pour Christ. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul encourage les Philippiens à marcher d'une manière digne de l'évangile de Christ. Au verset 12, il parlait déjà du progrès de l'évangile, mais le contexte de ce progrès, c'est l'hostilité, parce qu'il est en prison. Il dit, je veux que vous sachiez que tout ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est l'hostilité. C'est la souffrance qu'il a subie à cause de l'adversité. Et nulle part dans l'Écriture, on trouve que l'Évangile rencontrerait un tapis rouge déroulé devant lui, ou que les personnes ouvriraient leurs bras à l'annonce de l'Évangile. L'apôtre Paul dit que l'évangile est une, la prédication de l'évangile est une folie pour les païens, un scandale pour les Grecs. Jésus dit lui-même, il dit, si vous étiez du monde, dans Jean chapitre 15, il dit à ses disciples, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Parce que je vous ai choisi, parce que vous êtes associé à moi, le monde vous hait. Donc ceux qui s'attachent à Christ ne sont pas ceux qui sont aimés du monde. Il dit, souvenez-vous de ma parole, la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Et donc il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et c'est le message que Dieu avait donné même à Ananias pour l'apôtre Paul, vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul, tout nouvellement converti, était en train de prier. Dieu choisit son serviteur Ananias pour aller voir l'apôtre Paul. Et Ananias dit, oh là là, Seigneur, tu sais ce que cet homme a fait aux chrétiens. Il est même ici avec des lettres de recommandation pour amener, lier tous ceux qui croient en toi. Et Jésus lui, Dieu lui répond ceci. Il dit dans Actes chapitre 9, il dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et puis il ajoute, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et donc, avec la venue, la naissance de Paul à la foi, vient ici ces grandes souffrances que Dieu annonce ici. Dans Matthieu chapitre 5, nous avons lu les béatitudes. Vous vous rappelez, il y a quelque temps, Jésus a dit, heureux tous ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il dit que ces choses vont arriver. Il dit pas si ça arrive. Il y a peu de chances que ça arrive. Non, ces choses vont arriver. Mais il dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes heureux si ces choses vous arrivent. Parce que, eh bien, la souffrance pour Christ est indissociable de la foi en Christ. Matthieu chapitre 10, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, dit Jésus. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Et l'apôtre Paul, bien sûr, en fait même un principe qu'il applique à tous les chrétiens dans 2 Timothée 3, verset 12. Il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et donc, ici, il est important de considérer cette vérité qu'en tant que don que Dieu fait, eh bien, la souffrance, cela implique que la souffrance pour Christ est indissociable de la foi en Christ. Et l'apôtre encourage les Philippiens à supporter la souffrance, comme il encourage Timothée à supporter la souffrance. Je crois que dans 2 Timothée chapitre 4 qu'on a lu tout à l'heure, nous avons lu « souffre, hein, supporte la souffrance hein, », l'apôtre Paul dit à Timothée. Mais dans 2 Timothée chapitre 1 verset 8, il dit « n'aie donc pas honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais prends part aux souffrances de l'Évangile. » Tiens, ça veut dire qu'il y a des souffrances qui sont attachées à l'Évangile. Et il dit que le chrétien doit prendre sa part des souffrances de l'Évangile. C'est selon la version Darby que c'est écrit comme cela. L'apôtre Pierre, par exemple, quand il parle aux chrétiens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le chrétien ne doit pas considérer la souffrance comme quelque chose d'extraordinaire. Il dit que l'ordinaire du chrétien, c'est de souffrir pour Christ. L'ordinaire du chrétien, c'est de souffrir pour Christ. Je vous lis 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13. Il dit, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il dit, ne soyez pas surpris. Ne dites pas que c'est une chose étrange. La souffrance ne doit pas surprendre le croyant. Souffrir pour Christ ne devrait pas nous surprendre. Mais si l'apôtre Pierre le dit, c'est parce que certainement on se laisse surprendre par cela. Ce doit être quelque chose, ça ne doit pas être quelque chose d'étrange. Ça doit même être quelque chose que l'on attend. On doit s'attendre à cela. S'attendre à l'opposition, parce que la souffrance que l'opposition génère est un don de Dieu. Donc la réalité la plus ordinaire du chrétien est de souffrir pour Christ, car souffrir est un don de Dieu à ses enfants. Et donc, le chrétien devrait s'attendre à souffrir. Et c'est vrai que dans notre pays, dans notre région européenne, on a du mal à saisir cela. Quelqu'un a dit que nous sommes épargnés par la persécution qui atteint la plupart des pays du monde. Quand on lit l'histoire même actuellement, des chrétiens dans le monde, il semble que la plupart des chrétiens souffrent à cause de leur foi. On ne parle pas de la souffrance climatique, écologique, souffrent à cause de leur foi. Et en Europe, ça n'est pas vraiment le cas, en tout cas pas de manière brutale, pas de manière très visible. Et un auteur disait qu'il nous faut prendre conscience que nous vivons ici ce qu'on appelle une exception en Europe. Nous vivons une exception. Il ne faut pas croire que ça c'est la normale. Ça c'est l'exception. C'est l'extraordinaire exception dans laquelle nous sommes. La réalité ordinaire, c'est de souffrir pour Christ. Et dans le livre que je disais, l'auteur soulignait ceci, il dit qu'ils ont montré que le XXe siècle, à lui tout seul, a compté plus de martyrs chrétiens que les 19 siècles précédents réunis. On ne se rend pas compte. Parce qu'il dit, bien sûr, avec l'explosion démographique, tout ce qu'il y a eu, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont été persécutées pour leur foi. La dernière fois, le frère Hassan nous parlait des chrétiens en Algérie, hein, qui subissent de la part des autorités des fermetures d'églises. Nous sommes loin de connaître cela ici. Mais nous pouvons, parce que nous ne connaissons pas cela, croire que, eh bien, ça c'est la situation normale pour l'enfant de Dieu. Eh bien, Paul dit que Dieu vous a donné, nous a fait un don, et le don que Dieu vous a fait, un des dons, c'est la foi, pour croire en lui, mais aussi vous a fait le don de souffrir pour Christ. Et bien sûr, les oppositions, chers frères et sœurs, se manifestent de plusieurs manières. Ici, peut-être chez les Philippiens, il y avait une opposition frontale, rude, mais chez nous, dans notre pays, dans notre région, on n'a pas ce type d'opposition. Mais néanmoins, je crois qu'il y a quand même des oppositions. Elles n'ont pas la même intensité selon le lieu ou les époques, mais elles sont quand même réelles et peuvent nous intimider. Là où certains chrétiens font face à la persécution dure, eh bien, ils peuvent être intimidés et nous faisons face à de petites persécutions, des moqueries, des railleries parfois, des interdictions, des difficultés administratives, des limitations d'expression, n'est-ce pas, avec toutes ces lois qui sont votées pour, on n'a plus le droit d'exprimer ou d'avoir des signes ostentatoires de notre appartenance religieuse ou des choses comme cela. Difficultés pour avoir une salle, hein. Tout ça sont des oppositions qui peuvent nous faire reculer, peuvent nous intimider. Elles sont petites, mais elles sont peut-être à la taille de notre foi, je ne sais pas. Et là où les persécutions sont grandes, eh bien, Dieu accorde une grâce certainement particulière. La souffrance pour Christ est indissociable de la foi en Christ. Et c'est ce que je pense qui ressort de ce passage. Paul veut encourager les Philippiens à considérer cela. Il dit pas il faut fuir, il dit pas il faut partir de là parce que vous souffrez. Il dit il faut tenir ferme, il faut rester unis, il faut pas vous laisser intimider par les adversaires parce que Dieu vous a fait le don de la foi. Mais pas seulement cela, il vous a fait le don de souffrir pour Christ. Une deuxième implication, je crois qu'on peut retirer, c'est qu'en tant que don de Dieu, la souffrance pour Christ est la volonté de Dieu pour le chrétien. La souffrance pour Christ est la volonté de Dieu pour le chrétien. Si Dieu fait un don, c'est que son don est intentionnel. Si l'apôtre dit qu'il nous fait le don de souffrir pour Christ, c'est que c'est sa volonté même que le chrétien souffre pour Christ. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants souffrent. Et même, c'est une pensée qui est choquante, parfois pour certains. Dans certains milieux, on propage ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. On dit même que Dieu veut que ses enfants vivent en première classe, qu'il n'ait pas de maladie, qu'il n'ait pas de soucis, qu'il n'ait pas de soucis de santé, qu'il n'ait pas de soucis d'argent. Il veut que ses enfants soient confortables. La Bible s'inscrit en faux contre cela. Mais parfois, on ne va pas jusque-là. On va peut-être l'évangile de la demi-prospérité, je ne sais pas comment il faudrait le dire. On croit que, oui, ok, peut-être que Dieu ne veut pas tout cela pour les enfants de Dieu. Mais non plus, il ne veut pas la souffrance pour ses enfants. Mais ce que nous lisons ici laisse entendre que puisque Dieu fait le don de la à ses enfants le don de souffrir, c'est que c'est sa volonté que ses enfants souffrent pour Christ. La souffrance n'est pas simplement ici un accompagnement de la foi. C'est pas comme si Paul dit voilà, Dieu vous a donné la foi et puis avec la foi vient la souffrance et on peut pas faire autrement. Un peu comme quand on prend des médicaments. Vous prenez des médicaments et puis vous avez des effets secondaires, indésirables. C'est pas ce que vous voulez, hein. Mais ça arrive quand même avec les médicaments que vous prenez. D'accord? Où on a, quand il y a une action qui est menée quelque part, il y a parfois ce qu'on appelle des dommages collatéraux. C'est pas ce qu'on a visé, mais enfin on pouvait pas faire autrement. Il y a des choses qui se sont passées à la périphérie. C'est pas ce que l'apôtre dit. C'est pas comme s'il disait que Dieu veut vous sauver, il vous donne la foi, mais voilà, il pouvait pas faire autrement, comme il y a des opposants à l'évangile, et bien vous souffrez. Voilà, c'est tout. C'est pas ce qu'il dit. Il dit que volontairement, Dieu vous fait don de la souffrance. Il veut que vous souffriez pour Christ. La souffrance, ça a été la volonté de Dieu pour son Fils même. Ésaïe 53:10 dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Il y a d'autres passages qui expriment encore cela. Il dit « Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Dans le jardin de Gethsémané, Jésus prie et il dit, il prie pour que la volonté du Père s'accomplisse. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe de souffrance s'éloigne de moi. Mais il dit, mais que ta volonté soit faite. Et c'est quoi la volonté du Père? C'est qu'il boive cette coupe de souffrance. La volonté du Père, c'est qu'il souffre pour le pécheur. Et la volonté de Dieu aussi pour le croyant, c'est qu'il souffre pour Christ. Regardez ce qu'il dit dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. 1 Pierre chapitre 4, on peut lire déjà un peu avant, 1 Pierre chapitre 4. L'apôtre Pierre dit ceci, le Saint-Esprit dit ceci à travers l'apôtre Pierre. Verset 13, il dit « Réjouissez-vous au contraire ». Non, verset 12, « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de cela. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent, selon quoi? La volonté.